suis arrivé plus tôt que prévu. J'ai commencé à entendre, j'ai entendu les interventions donc de Sabeuval et de Dubois, et je me demande si je vais pas devoir faire toute une série de coupes parce que j'ai l'impression que ce que je vous raconte, ils vous l'ont dit. Ils vous l'ont dit dans leurs termes, mais ils vous l'ont dit. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai eu l'occasion de les entendre quelques années. Et il me semble qu'à l'époque où je commençais à construire un petit truc, une petite analyse des évolutions de la politique de la ville, le discours, leur discours, le discours des responsables nationaux de la politique de la ville était d'une toute autre nature. Et que, entre ce que je racontais et ce qu'ils racontaient, on ne parlait pas de la même chose. Il me semble qu'on parle de la même chose. Ceci étant dit, ça veut dire que je vais sans doute faire des coupes. Il y a des moments. Bon, mais je reprends tel que j'avais commencé à préparer les choses et puis on verra. Je ne vais pas vous parler trop de la politique de la ville, je vais essayer de vous parler plus généralement des évolutions institutionnelles, de l'acte 2 de la décentralisation, de la LOLF, des agences, ce genre de choses. Peut-être juste pour commencer sur la politique de la ville. Alors vous êtes un certain nombre ici, je reconnais des têtes à voir. Pas mal de bouteilles dans la politique de la ville, on est un certain nombre maintenant, donc je ne vais pas revenir trop en arrière, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est de se dire que, quand même, on a dit, quand je dis on, c'est vous, moi, nous, d'autres, pendant très très longtemps, combien la politique de la ville était une politique marginale. On se plaint de cette marginalité, du fait que la politique de la ville fait. Durablement, je dirais depuis Bron, depuis le discours de Mitterrand à Bron, l'objet de. D'un affichage récurrent par les responsables politiques, c'est une politique prioritaire, c'est une priorité de l'État, et on sait bien que ce n'est jamais le cas. Ça s'est jamais vraiment concrétisé dans les faits. La politique de la ville, c'est une politique qui a été instable. Tous les 6 mois, tous les ans, on a un nouveau plan, un nouveau ministre, une nouvelle secrétaire d'État. Les ressources qu'elle mobilise demeurent, somme toute, limitées. C'est une politique qui est portée par des structures, portées par des professionnels qui sont, je veux dire, périphériques dans l'action publique, aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon local. Bon, c'est la politique de la ville, on l'a toujours un peu présentée comme ça. Et de fait, la politique de la ville, c'est ça, et en même temps, c'est tout sauf ça, la politique de la ville. Et je crois qu'on en prend la mesure aujourd'hui. Alors, certes, pendant toutes les années 80-90, la politique de la ville, c'était une politique marginale, et en même temps, déjà à l'époque, c'était une politique qui était centrale dans l'action publique de la période, ou en tout cas dans les recompositions de l'action publique de la période. Les principes structurants de la politique de la ville, la transversalité, le partenariat, la territorialisation, les instruments qu'a développé la politique de la ville, le projet territorial, le contrat global, l'évaluation, ils sont très rapidement étendus pour finir par couvrir l'ensemble des territoires, l'ensemble des thématiques. D'une certaine façon, au fil des années 80 et 90, la marge est devenue la norme en matière de gestion des territoires. Et je commence par là parce que je pense que ça explique la déstabilisation qu'on connaît aujourd'hui. Parce que dès lors que la politique de la ville et ses principes sont devenus, ont été intégrés par toutes les autres politiques publiques, par contre-coup, c'est l'épuisement de la politique de la ville que vous avez vécu. Parce que les spécificités de la politique de la ville ont disparu. Tant que la politique de la ville pouvait se définir par des principes d'action, tant que finalement ces objectifs pouvaient être formulés en termes d'effet levier, il s'agissait de transformer les autres politiques. La faiblesse des effets directs de la politique de la ville importait peu. Bon, en tout cas, ce n'était pas excessivement problématique. Si les quartiers n'allaient pas mieux, ça ne pouvait pas être la faute de la politique de la ville. Au contraire, ça justifiait le fait qu'il fallait se mobiliser dans la politique de la ville pour transformer les autres politiques pour qu'elles soient en mesure de gérer les quartiers, de traiter les problèmes des quartiers. Dès lors que les autres politiques sectorielles ont bougé, dès lors que ce à quoi appelait la politique de la ville, le partenariat, la structuration d'intercommunalités, etc., etc., dès lors que tout ça a bougé dans le sens qui était voulu par la politique de la ville, cette politique, elle pouvait plus se justifier sur le seul registre de la transformation des autres. Il a bien fallu, à un moment donné, qu'elle fasse la preuve de ses effets directs sur les quartiers, sur les habitants. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous ont dit Sapoval, Dubois, sur l'exigence de rendre des comptes, dire à quoi ça sert, mettre en avant les réussites. Il faut. Et la loi du 1er août 2003, la loi Borloo, il me semble qu'elle est entièrement tirée par cette perspective. Il y a une mobilisation de moyens absolument inédits en faveur des quartiers prioritaire. Il y a des moyens inédits qui sont mobilisés. Il y a une réforme assez radicale de la politique, de l'ensemble de cette politique, hein, puisqu'on a transformé l'approche, les instruments, les structures, les ressources et le positionnement de cette politique dans l'action publique. Et la conséquence de ces évolutions, c'est que on ne peut plus considérer aujourd'hui la politique de la ville comme une politique marginale, que ce soit au niveau central ou au niveau local. À l'échelon central, l'importance qui est accordée à la politique de la ville, elle se mesure d'abord au budget, et plus encore l'importance d'une politique nationale, ça se mesure peut-être moins à son budget qu'à la croissance de son budget. Et de ce point de vue-là, la politique de la ville, c'est plus une politique marginale. Hein. La politique de la ville a un budget national substantiel et surtout une croissance de ce budget qui est substantielle. Alors je pense là au crédit de l'ANRU et à la DSU. Parce que le gros de la croissance, c'est ça. Alors les budgets de la politique de la ville sont substantiels, même s'ils demeurent loin de compenser les inégalités produites par les politiques de droit commun et produites par la fiscalité locale. Ça, il faut quand même se le rappeler. La centralité de la politique de la ville à l'échelon national, elle tient aussi au fait que depuis les émeutes de 2005, les quartiers de la politique de la ville sont durablement inscrits au sommet de l'agenda politique national. D'ailleurs, on voit bien quand ils en disparaissent, c'est pour y revenir assez brutalement quelques mois plus tard. Et je pense que la politique de la ville occupe aujourd'hui une place beaucoup trop centrale dans le débat politique pour qu'on la considère comme marginale. Et ça, c'est appelé à perdurer. À l'échelon local, d'une certaine façon, il en va de même. Si on regarde dans la plupart des villes aujourd'hui, en tout cas dans la plupart des villes qui sont inscrites dans le PNRU, le projet de rénovation urbaine constitue le principal projet du territoire, en termes financiers notamment. De ce fait, la politique de la ville, parce que faisons semblant de croire que la rénovation urbaine, c'est la politique de la ville, la politique de la ville occupe une place qui est centrale dans les politiques locales. Le PRU mobilise les ressources du territoire, les compétences, les énergies, ça vous le savez. Alors certes, les professionnels du volet humain de la politique de la ville, comme on dit maintenant, à l'exception de ceux qui ont su devenir directeurs de projet de la rénovation urbaine, ce qui est le cas d'une partie, et d'une partie seulement. Mais les professionnels historiques de la politique de la ville, ceux qui s'occupent des CUC, des agents de développement, ceux qui sont en charge de tel ou tel sous-dispositif de la politique de la ville, eux ont été complètement marginalisés dans la phase de préparation du PRU. En plus, vous êtes les laissés pour compte de la croissance des budgets de la politique de la ville. Parce que cette croissance des budgets de la politique de la ville, qui est massive, elle correspond de fait à un transfert tendanciel des crédits, depuis des enveloppes de subventions cogérées avec l'État, sur lesquelles dont vous aviez la maîtrise, vers des dotations automatiques qui abondent le budget des communes. Et sur lequel, finalement, là par contre, il est souvent difficile de reprendre la main. À l'évidence, l'effet péréquateur de la DSU bénéficie aux villes, inscrites dans la politique de la ville. Elle ne bénéficie pas nécessairement aux professionnels en charge de cette politique. Reste à savoir, et c'est la question principale, est-ce qu'elle bénéficie aux quartiers, à leurs habitants? Je voudrais en revenir au PRU. Donc, je vous disais, il y a eu une marginalisation pendant la phase d'élaboration du PRU. Ce que je trouve intéressant, c'est que une fois passé le cap du conventionnement avec l'ANRU, la marginalisation des professionnels de la politique de la ville prend souvent fin. Le rapport n'a pas été vraiment jugé utile en amont, quand il s'agissait de faire la course, d'élaborer au plus vite un projet, de passer le cap de l'ANRU, c'était l'esprit commando. Le rapport, il devient important en aval, quand les projets entrent dans leur phase de mise en œuvre, parce que il faut bien, quand même, mettre en œuvre des actions d'accompagnement social, culturel, faire des actions mémoire, s'assurer que, il y a des gens qui scoltinent ce truc un peu compliqué qui est l'accompagnement social du relogement, l'insertion par l'économique. Voilà, donc moi je suis assez, pour avoir observé un peu dans la durée quand même la mise en œuvre de ce programme, je trouve assez saisissant de voir à quel point les professionnels historiques de la politique de la ville ont été marginalisés dans la période 2003-2005 ou 2006, et comment ils reprennent la main, peut-être pour moi c'est pas l'effet CUX, c'est bien l'effet mise en œuvre des PRU, le fait que les PRU rentrent en phase de mise en œuvre, et que donc il faut bien s'appuyer sur des professionnels qui s'assurent que Bon, si je vous dis tout ça, donc pour dire que ce n'est plus une politique marginale au niveau national, ce n'est plus une politique marginale au niveau central, et même les acteurs historiques qui avaient été marginalisés reviennent dans la partie, Mais par contre, quoi, en revanche, il y a une chose qui est très importante, quoi, à l'esprit, c'est que les principes fondateurs de cette politique, ceux sur lesquels votre groupe professionnel s'est constitué, eux, ils sont menacés de marginalisation. Ils ont été marginalisés. La politique de la ville est une politique centrale, mais c'est plus la politique de la ville telle qu'on l'a connue, telle que vous l'avez connue, telle que vous l'avez construite. Ce que je viens de faire, c'est une sorte de propos liminaire. Je vais vous parler d'autre chose maintenant. En tout cas, je vais essayer maintenant de sortir un petit peu de la politique de la ville pour vous parler plus largement du contexte dans lequel s'inscrivent les évolutions de la politique de la ville. Je vous dis, il y a une rupture importante dans la politique de la ville. On ne peut pas la comprendre exclusivement en se cantonnant au champ de la politique de la ville. Il faut la remettre en perspective dans les évolutions institutionnelles, dans l'évolution des politiques publiques plus largement. De la même façon qu'on ne peut pas comprendre la politique de la ville, sa naissance dans les années 80, sans prendre en compte le contexte de bouleversement de la décentralisation. On vit une période de bouleversement institutionnel d'une importance qui me semble comparable à celle qu'on a connue en 82-83. On a combiné l'acte 2 de la décentralisation et la LOLF. Ces deux réformes changent radicalement la donne en matière de gestion territoriale. D'un côté, on a l'État qui se retire des territoires. On assiste, sous l'effet de l'acte 2 et des transferts de compétences aux collectivités, on assiste à une forme de résidualisation de l'État déconcentré. J'importe un concept qui est celui de résidualisation, qui est le concept qui est utilisé en Grande-Bretagne pour décrire ce qui s'est passé en matière de logement social depuis Thatcher. Thatcher a lancé un grand programme de vente de logements sociaux. Le parc social a de fait diminué de quasiment de moitié, ce qui a été vendu. Et qui est resté dans le parc social? Que ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter. Ce qui fait que le parc social est devenu plus limité, plus petit, et il n'était plus occupé que par ceux qui n'avaient pas d'autres sources. Les services de l'État, les services déconcentrés de l'État, aujourd'hui, c'est la même chose. Ils sont plus limités, et finalement, où est-ce qu'ils gardent prise? Uniquement là où il y a des territoires sans ressources. Territoires sans ressources en matière d'ingénierie, sans ressources en diverses variétés. Pour le reste, l'État local a déserté, mais j'y reviendrai. Et il me semble que ça vous met dans une position qui est assez particulière, parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes construits dans le cadre des politiques contractuelles, dans une relation privilégiée avec les directions départementales. Dès lors que vos interlocuteurs naturels, ceux en face desquels vous agissiez en permanence, sont marginalisés, c'est votre position qui est fragilisée. De fait, l'État délègue la responsabilité de la gestion des territoires aux collectivités locales. Pour autant, et ça c'est vraiment une chose qui me semble très importante, l'État n'a pas renoncé à intervenir. Il y a un mouvement de retrait de l'État local, mais il s'accompagne de la mise en place de nouvelles institutions, de nouveaux instruments à l'échelon central, au travers desquels les modalités d'intervention de l'État dans les territoires changent, et au travers desquels l'État retrouve des moyens pour orienter les politiques locales. De ce point de vue, il me semble que vous savez, le titre de l'acte 2 de la décentralisation, le titre de la loi du Sadat, c'est liberté et responsabilité locale. De ce point de vue, moi, il me semble que la période qu'on vit, c'est plutôt responsabilité locale sans les libertés locales. Je vais essayer de développer un peu tout ça. Là, je vous ai annoncé de manière un peu brute des éléments de raisonnement. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais quand même faire deux précisions pour anticiper les critiques. Première précision, c'est que moi je vais essayer de vous montrer qu'il y a une réaffirmation de l'État dans la gestion territoriale. Cette réaffirmation de l'État, elle ne résulte pas d'un projet politique. Elle résulte d'évolutions instrumentales, dans les instruments utilisés par l'État. Pour le dire autrement, je ne suis pas là pour venir vous révéler une sorte de complot des élites nationales qui chercheraient à reprendre la main sur le local. Je vais simplement essayer de vous donner à voir quels sont les effets de réformes managériales. Parfois, des effets pervers quand des réformes visaient vraiment à renforcer l'autonomie locale et que, de fait, elles aboutissent au renforcement du contrôle. Deuxième précision, c'est que l'analyse que je propose aujourd'hui, c'est une montée en généralité, à partir de travaux qui portent sur la politique de la ville et notamment sur la mise en place du PNRU. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de construire une modélisation, donner une sorte de sens général. Cette modélisation, elle ne prétend pas décrire la situation précise qu'on connaît aujourd'hui en France, dans le territoire. Ça vise avant tout à expliquer une dynamique d'évolution. Pour le dire encore plus simplement, le modèle que je vais vous construire ne s'applique pas parfaitement à tous les territoires, il ne s'applique pas parfaitement à toutes les politiques publiques, mais je pense qu'il est de nature à aider à comprendre les transformations qui s'observent dans tous les territoires et dans toutes les politiques publiques. Et il me semble que c'est important si, pour faire ce que vous m'avez demandé de faire, c'est-à-dire vous aider à avancer, à vous aider dans votre réflexion un peu prospective sur les enjeux de vos métiers. Bon, je ne vais pas vous parler de vous, je vais parler d'autres personnes qui vous ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas vous. Hein. Bon, donc depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a une rupture, la fin de la politique de la vie, etc. Bon, est-ce qu'il y a vraiment rupture? Alors, petit retour en arrière jusqu'au rapide, hein, parce que vous connaissez ça. Je repars des lois de décentralisation de 82-83. C'était la fin de l'hégémonie de l'État sur le local. Des lois qui sont organisées dans une logique assez particulière, ce qu'on appelait les blocs de compétences, hein, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les différents niveaux de collectivité, éviter qu'il y ait des problèmes politiques entre les différents niveaux de collectivité. On s'assure que chaque collectivité, chacun maître chez soi. Hein, l'urbanisme pour les communes, le social pour les départements, l'économie pour les régions. En pratique, cette option, très jolie sur le papier, hein, absurde quand on y pense vraiment, mais peu importe, cette option a ajouté à la fragmentation antérieure, la fragmentation horizontale, la fragmentation sectorielle des politiques publiques, ça a ajouté une couche supplémentaire de fragmentation verticale entre trois niveaux de collectivités qui étaient juridiquement autonomes, fonctionnellement complètement interdépendantes et souvent politiquement concurrentes. Autrement dit, là où on avait des problèmes pour faire de la mise en cohérence des politiques publiques, on a rajouté quelques degrés de complexité. Et dans ce contexte, l'État déconcentré, l'acte 1 n'a pas marqué la fin de l'État déconcentré, ça a marqué simplement un changement de rôle de l'État déconcentré dans la gestion locale. L'État est devenu, pour reprendre l'expression de Donzo Esteb, est devenu animateur. En tout cas, il a essayé de se repositionner dans une fonction d'animation du partenariat territorial. Et de fait, ça s'est concrétisé par quoi? Par la floraison de contrats signés avec les collectivités, je ne vais pas vous faire la liste, contrats qui ont assuré aux villes une prééminence dans la définition des priorités locales, un droit de regard sur les conditions de mise en œuvre des politiques régaliennes. Mais bon, l'État restait dans la partie. Je ne vais pas revenir sur l'idée que vous connaissez, hein, que ces contrats, initialement, c'était vraiment la politique de la ville, ça s'est construit dans la politique de la ville et c'est progressivement étendu à tous les territoires et toutes les politiques. Le couplage de ces politiques avec celles de l'Union européenne, les politiques régionales, les politiques urbaines de l'Union, ont accompagné un mouvement. Tout au long des années 80-90, un mouvement d'autonomisation des villes. Les villes étaient des nains politiques, hein, avant 80, sont devenues les acteurs majeurs, centraux, les leaders de l'action publique territoriale. Alors, il y a eu toute une série de leviers qui ont été mis à disposition des villes. Elles s'en sont saisies, avec plus ou moins de succès suivant les villes. La dynamique d'autonomisation des villes, d'affaiblissement de l'État, en l'air, elle a semblé devoir s'amplifier au tournant des années 90 avec le vote des trois lois du gouvernement Jospin, Chevènement, Voynet et SRU. D'un côté, la loi Chevènement faisait émerger des entités politiques à l'échelle de l'agglomération. D'un autre côté, la loi Voynet consacrait leur prééminence en matière de mise en cohérence des politiques publiques autour d'un projet territorial dans le cadre d'un contrat, avec un contrat global, sous réserve que ce soit débattu avec l'ensemble de la société locale. Comme vous connaissez tout le truc, l'essor absolument spectaculaire de l'intercommunalité qu'on a connu à la suite de ces lois conférait une certaine crédibilité au pari stratégique de leurs promoteurs. Parce qu'il y avait vraiment un pari stratégique derrière les lois Chevènement-Voynet. Ils ont été très clairs, ils l'ont explicité par la suite. Il faut relire, par exemple, le rapport de la commission Mauroy sur l'avenir de la décentralisation, c'est très clair. Il disait, en gros, on veut faire un acte 2, la décentralisation, on veut supprimer les communes et les départements, c'est obsolète, etc. Enfin, vous connaissez tout le truc. Simplement, on sait que politiquement, on n'y arrivera pas. Chaque fois qu'on veut le supprimer les communes et départements, on n'y arrive pas. Donc, ce qu'on va faire, stratégie ou tactique, je ne sais pas, c'est on fait émerger de nouvelles institutions territoriales, les agglos, les pays, qui vont faire la preuve de leur pertinence, parce qu'ils vont être sur des territoires pertinents, Elles vont, et puis en plus, elles ne vont pas être spécialisées dans un bloc de compétences, mais elles vont traiter tout autour d'un projet territorial. Ça, c'est la modernité en action. En plus, il y a une nouvelle génération d'élus qui va se socialiser dans le cadre intercommunal. Et puis les maires vont bien voir que pour eux, ce n'est pas très intéressant les communes. Ce qui est intéressant, c'est les agglomérations. Et donc, comme ça, à terme, on va pouvoir supprimer la commune et le département et moderniser la gestion publique territoriale. Dans le cadre d'un futur acte 2. Et donc, on aurait des agglomérations, des pays, des régions, correspondant à des territoires pertinents, à l'échelle desquels on pourrait faire un acte 2 fondé sur la territorialisation d'ensemble des politiques publiques, s'en est fini des blocs de compétences, etc. Donc, c'était bien un projet décentralisateur, un projet qui devait consacrer la victoire du couple région-agglomération. Comme vous le savez, le projet n'a pas survécu à l'acte 2 de la décentralisation. Je devrais dire qu'il n'a pas survécu aux élections régionales de 2004, mais ça c'est autre chose. De fait, ce qui devait être la mère de toutes les réformes pour Jean-Pierre Raffarin, qui était un régionaliste convaincu, n'a fait que consolider les blocs de compétences définis en 82-83. On a fait, hein, l'acte 2, ce n'est que... On redonne des petits bouts de compétences à chaque niveau de collectivité correspondant au bloc sur lequel ils étaient spécialisés en 82-83. Et quand on regarde qui sont les gagnants dans cette affaire, c'est très clair. Qui étaient les gagnants annoncés? Les pays, les pays ils ont disparu. Pour l'État, les pays n'existent plus. Les agglomérations étaient les gagnants annoncés. Elles n'ont vraiment pas gagné grand-chose dans l'acte 2. Et les régions aussi, elles ont à peine gagné. Si on regarde, en gros, l'acte 2, c'est le transfert de 11 milliards d'euros de compétences. Il y en a 8 milliards qui sont transférés au département. Ceux dont la mort était annoncée. Les gagnants sont les perdants annoncés. Bon, sous réserve que gagner des compétences, c'est être gagnant dans la gestion territoriale, ce qui se discute. Parallèlement, le gouvernement français a choisi de garder la main sur la gestion des fonds structurels européens, les fonds par lesquels Bruxelles soutenait les projets des régions et des villes sans passer par l'État. Et il y avait une expérimentation de la décentralisation, du transfert de cette compétence qui était conduite en Alsace depuis 2004, qui devait normalement aboutir à la généralisation, le principe de l'expérimentation. Ben, le gouvernement a annoncé en 2006 qu'il allait proroger l'expérimentation. Autrement dit, la décentralisation de la gestion des fonds structurels était annoncée et il y a un retour en arrière. Donc il y a eu là, sur la période 2003-2004, conjonction de choses qui font que finalement l'acte 2, la décentralisation, ressemble fortement à l'acte 1 de la décentralisation. Il en reprend en tout cas les recettes. Pour autant, c'est pas la même chose, l'acte 2 et l'acte 1. C'est pas la même chose parce que la nouvelle étape de la décentralisation ne s'accompagne pas d'un renforcement concomitant de la déconcentration. Au contraire, le lien intime qui unissait ces deux processus de transfert du pouvoir du centre vers le local, ce lien s'est trouvé rompu. On a bien décentralisation et en parallèle, on a reconcentration. Certes, l'acte 2 s'accompagne de toute une série de mesures qui doivent réformer l'organisation des services locaux de l'État. Mesures qui sont systématiquement présentées sous l'angle du renforcement de l'échelon régional, c'est réel, il y a un renforcement des services régionaux de l'État. Mais ce renforcement, il est relatif. Il est relatif surtout par rapport à des services départementaux qui, eux, sont exsangues et qui ont perdu la quasi-totalité de leurs moyens au profit des collectivités locales. Or, certes, on a un renforcement du faible, parce que historiquement, les services départementaux, c'est le gros de l'action de l'État déconcentré, et les services régionaux, Pardon, on a un renforcement du faible, services régionaux, c'est pas grand-chose, les services régionaux de l'État, et on a un affaiblissement du fort. Dans la balance, est-ce que ça aboutit on va dire à quoi ça aboutit. Et la marginalisation tendancielle des services déconcentrés de l'État est amplifiée par l'entrée en application de la LOLF, de la loi organique relative aux lois de finances, du 1er août 2001. Bon, je sais pas, vous savez tous ce que c'est, hein. Souvent présenté comme une révolution budgétaire, dotant la France d'une nouvelle constitution financière. Comme toute révolution, il y a des victimes, hein. C'est rare qu'il y ait des révolutions oranges dans la paix, hein, et l'allégresse. Là, dans le cas de la LOLF, les services déconcentrés de l'État sont les premières victimes. et particulièrement les services départementaux. Alors, quand on prend le texte de la LOLF, c'est assez intéressant, il n'y a rien d'écrit sur l'organisation administrative. Rien. Ça ne parle que de la manière dont on construit un budget, on l'exécute, on le suit, etc. Mais l'esprit de la LOLF, tel qu'il a été explicité par ses pairs, hein, Migaud et Lambert, le député Migaud et le sénateur Lambert, l'esprit de la LOLF allait très clairement dans le sens d'une réorganisation des structures administratives de l'État et dans le sens d'une déconcentration managériale et financière accrue. Les budgets opérationnels de programme, là, les fameux BOP, au travers desquels s'opère la déclinaison opérationnelle d'un programme sur un territoire, devaient venir concrétiser cette déconcentration. Hein, c'était le principe liberté, responsabilité des gestionnaires locaux. La LOLF en pratique, la LOLF en acte, n'a rien à voir avec les présentations qu'en font les réformateurs de Bercy. Alors, il est évidemment prématuré de porter un jugement définitif sur cette loi commence à se mettre en œuvre, mais moi, il me semble que les premiers effets qu'on peut observer vont à l'inverse des intentions affichées s'agissant de renforcement de l'autonomie des gestionnaires locaux, ou s'agissant des rapports entre administration centrale et administration locale. D'ailleurs, la Cour des comptes et la DATAR l'avaient annoncé avant l'entrée en application de la LOLF. Elles avaient l'une et l'autre souligné le risque d'un hiatus entre la logique sectorielle et descendante de la LOLF, d'une part, et la logique horizontale et remontante qui devait guider l'action de l'État dans les territoires. Les mises en garde n'ont pas été entendues, l'accroissement des marges de manœuvre que devait permettre la globalisation et la fongibilité des crédits à l'intérieur de chaque programme ne s'est pas concrétisé. Les managers locaux, les responsables locaux, comme on dit, quoi, les responsables des services de terrain de l'État, qui devaient voir leur liberté accrue, de fait, ils ont vu que cette liberté était fortement réduite par les responsables de programme à l'échelon central, ceux qui parlaient là ce matin, hein, qui ont fractionné les programmes en de multiples BOP et qui, se faisant, ont créé des blocs de dépenses qui constituent autant d'enveloppes non fongibles. Localement, un préfet ne peut pas prendre des crédits de la réussite éducative et les balancer vers les adultes relais. La déconcentration apparaît d'autant plus formelle que les administrations centrales ont multiplié les directives et les instructions relatives à l'emploi des crédits, privant les responsables locaux, les managers locaux, d'une grande partie des libertés nouvelles qui devaient résulter de la loi organique. En la matière, quoi, je trouve que si on met en regard le FIV et les nouveaux crédits de la politique de la ville, on n'est pas dans un progrès en matière de fongibilité. La LOLF se traduit par un renforcement du fonctionnement vertical, hiérarchique de l'administration française, et elle aboutit à des prescriptions toujours plus précises pour les acteurs situés en bout de chaîne. Parce qu'on a aussi tout un système de pilotage par objectif, développé au nom d'une légitime culture de la performance, mais qui met sous pression l'ensemble des responsables administratifs. Chaque niveau hiérarchique répercutant la pression sur le niveau inférieur. Vous l'avez vu, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ce matin, tous les deux, ils ont dit « nous, il faut qu'on rende des comptes auprès du Parlement ». Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent au niveau en dessous, ils disent « va falloir rendre des comptes, parce que moi, je dois rendre des comptes ». De fait, le responsable de programme doit rendre des comptes, son ministre lui met la pression, le Parlement lui met la pression, il met la pression au responsable de programme, qui met la pression sur les responsables de BOP, qui met la pression sur les gestionnaires effectifs des mesures qui restent encore les services départementaux. De fait, les instruments de pilotage et les instruments de suivi en temps réel qui sont introduits par la LOLF réduisent fortement ces marges de manœuvre dont disposaient les services locaux dans leurs négociations avec les collectivités locales. Dans la période qui a été d'une décentralisation à l'autre, le rôle de l'État local, vous le disiez, c'était finalement en lien avec les collectivités, d'adapter la mise en œuvre des mesures nationales en fonction des contextes, en fonction des projets locaux. Désormais, l'État local il se trouve cantonné dans une double fonction d'exécution de programmes précisément définis à l'échelon central et de reporting vis-à-vis du niveau central, constamment alimenter le niveau central de chiffres pour lui dire voilà ce qu'on fait. L'agencification, désolé pour ce barbarisme, l'agencification de l'État central dans le sillage de la LOLF prolonge le mouvement. C'est la logique LOLF, le débouché naturel de la LOLF, c'est l'agencification, c'est la création d'agence. Hein, c'est un programme, une agence, pour qu'il y ait un responsable clairement identifié et qui puisse faire la preuve de sa performance. On avait des ministères intégrés chargés de la conception, de l'exécution de l'ensemble des politiques relatives à un secteur donné. Ces ministères perdent progressivement la maîtrise de la mise en œuvre au profit de diverses agences monotâches. Bah voilà, oui, l'ANRU, elle s'occupe de rénovation urbaine. Qu'on lui demande pas de faire la réussite du CADIF, c'est pas son problème. L'accès, elle ne demandait pas de faire la rénovation urbaine, c'est pas son problème. On l'a dit, on peut lui demander qu'est-ce que vous faites pour mettre en relation la rénovation urbaine et la réussite éducative. Bref. Donc on a de nouvelles organisations qui déstabilisent fortement les administrations centrales, des administrations centrales qui perdent la maîtrise d'une part croissante, voire totale parfois, des ressources budgétaires de l'État, et notamment des ressources budgétaires qui étaient jusque-là gérées par, qui étaient déconcentrées, qui sont remontent pour alimenter non pas les ministères, mais les agences. En plus, les agences, parce qu'on est dans les, faut faire de l'ingénierie financière, elles se contentent pas de capter les ressources budgétaires de l'État, elles captent les ressources extra-budgétaires. C'est la guerre en ce moment entre les ministères et les cabinets, essayer de trouver qui va aller gratter une petite ligne de crédit sur laquelle personne n'a encore mis la main et hop, la ramener dans le périmètre de l'agence. De fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ressources centrales, les ressources de l'État, tendanciellement, elles sortent de la maîtrise des administrations centrales et donc elles sortent du dialogue de gestion qu'il y avait entre les administrations centrales et les services déconcentrés. Alors, j'ai pas nécessairement le temps de m'engager dans un développement qui serait quand même nécessairement long sur les relations entre administration centrale, administration de tutelle et agence. Je pense que cette question est aujourd'hui centrale, d'un point de vue, de plein de points de vue, notamment d'un point de vue démocratique. Puis aussi, si on veut que la LOLF aboutisse effectivement à un renforcement de la transparence et de la performance. Il n'est pas inutile d'aller voir ce qui a pu se passer dans plein d'autres pays qui ont basculé avant la France dans la mode de l'agence. Et on voit partout dans le monde occidental, et pas qu'occidental, que cette logique où on a des administrations qui sont là dans des rôles de tutelle et de pilotage, d'orientation, et des agences qui sont là pour mettre en œuvre ce qui a été décidé ailleurs, ça marche jamais comme ça. C'est une dialectique assez hégélienne, quand vous connaissez, ou agent principal, quoi. Il y a plein, c'est des choses assez classiques. La logique des agences, c'est une logique d'émancipation de leur tutelle. Et il me semble que ce qu'on voit aujourd'hui avec l'ANRU, dans une moindre mesure avec l'accès, quoique, n'est pas si différent. Bon, mais je vais pas m'étendre là-dessus. La marginalisation des services déconcentrés de l'État, donc qui s'est amorcée avec les transferts des compétences aux collectivités locales d'un côté, la reconcentration organisée en parallèle par la LOLF de l'autre, a ouvert à quoi, la voie à quoi? À une refonte assez radicale là, des services déconcentrés ou de l'administration territoriale de l'État. Si vous lisez ce qui vient d'être annoncé dans le cadre de la démarche de RGPP, Révision générale des politiques publiques, avec cet objectif d'alléger l'État, qui a été annoncé en décembre, est assez clair en la matière. Il faut mettre fin à l'organisation historique de l'administration déconcentrée de l'État, fusionner toute une série de services déconcentrés. Moi, il me semble que les fusions annoncées, si elles se mettent en œuvre, parachèveraient le mouvement de marginalisation de l'État déconcentré, en tout cas mettraient fin à l'intégration verticale des administrations d'État, puisqu'on aurait des services déconcentrés qui se constitueraient sur des périmètres qui n'ont plus rien du tout à voir avec ceux des ministères. Le fait que les ministères voient ainsi leurs relais locaux disparaître, ou en tout cas perdre de leur force, le fait qu'on ait ainsi ce mouvement de retrait de l'État des territoires, est-ce que ça va conduire à l'autonomie des villes, la liberté des villes, et le retrait de l'État de la gestion territoriale, comme je vous l'ai dit, moi je crois que c'est exactement le contraire. Je crois que en s'extrayant des territoires, en laissant de côté ces services déconcentrés, l'État se donne les moyens de revenir dans la gestion territoriale. L'État central se donne les moyens de revenir dans la gestion territoriale parce qu'on le sait depuis longtemps, les directions départementales sont des relais bien plus efficaces sur le mode ascendant, comme défenseur du local vis-à-vis de Paris, que sur le mode descendant, pour défendre les projets de leur maison mère vis-à-vis des villes. Alors, bon, en tout cas, c'est toute la sociologie politique et administrative française depuis Pierre Grémion qui nous dit ça. L'hypothèse que je vous donne, c'est-à-dire qu'on serait plutôt dans un moment de retournement de tendance la fin de la phase d'autonomisation des villes et d'affaiblissement de l'État, mais au contraire une phase dans laquelle l'État reprend la main dans la gestion territoriale, c'est pas de la simple spéculation. Si on regarde ce qui se passe dans le domaine de l'aménagement, de l'urbanisme et du logement, qui sont quand même des domaines structurants pour les villes, il me semble que les choses sont assez claires. l'État local a totalement perdu en 2004 les leviers, l'État perdu en 2004, les derniers leviers au travers desquels il s'était maintenu à partir de 82 dans les politiques urbaines. Pour dire les choses très vite, la programmation des aides à la pierre. Donc en 2004, l'État a perdu la programmation des aides à la pierre et a perdu finalement l'État local, les DDE, pour dire les choses clairement, les derniers leviers à travers lesquels il s'était maintenu dans la relation avec les villes. Il lui restait quoi après? Qu'est-ce qui reste au DDE aujourd'hui? L'expertise. L'expertise, oui, quoique, d'abord, l'expertise, elle est largement ailleurs maintenant. Et puis, deuxième chose, les DDE sont désormais désertés par les cadres des corps techniques de l'équipement. Les ingénieurs des ponts ne vont plus en DDE. Et maintenant, même les ingénieurs des travaux publics de l'État ne vont plus en DDE. Les DDE se maintiennent, tentent de se maintenir, font des efforts en bons élèves de la modernisation de l'État pour se maintenir. Mais je crois et je pense que les fins connaisseurs des DDE, comme Gilles Vianneau qui est au fond de la salle, ne me contrediront pas sur ce point-là. Les DDE sont mortes. Donc l'État a transféré aux collectivités la quasi-totalité des responsabilités et de ses leviers d'action dans le domaine de l'aménagement, dans le domaine du logement, mais l'État n'a pas perdu toute capacité d'action en la matière. Au contraire, en même temps qu'il se retire du local, l'État a développer de nouveaux instruments d'intervention à l'échelon central. S'en est fini des contrats divers, variés, signés par l'État local avec les collectivités pour organiser la mise en œuvre de toutes les compétences transférées, partagées. Il y a les contractualisations locales au travers desquelles s'opérait la territorialisation des politiques de l'État. On laissait place à une nouvelle génération de contrats, mais de contrats qui n'ont plus rien à voir avec les anciens contrats. Ce sont des contrats extrêmement ciblés sur les contrats de projet État-région, les conventions de rénovation urbaine, les conventions de délégation des aides à la pierre. Ce sont des contrats qui déclinent localement les priorités, les actions, les objectifs chiffrés de production définis à Paris. Des contrats qui prétendent s'appuyer sur un projet, qui ne font que décliner un programme. Ça n'a rien à voir. Donc des programmes précis avec des opérations dont les maîtrises d'ouvrage, les plans de financement, les calendriers sont eux aussi définis dans le détail et assortis de mécanismes de sanctions, de clauses de révision en cas de non-respect de leurs engagements par les collectivités qui s'accompagnent de mise en place de dispositifs d'audit, de benchmarking dans tous les sens pour s'assurer qu'une fois qu'on a signé les choses, on y aille, on réalise le programme. Il ne s'agit pas de conduire un projet, il s'agit de réaliser un programme. Alors certes, on a encore des projets globaux, des contrats globaux dans tous les sens, des projets territoriaux, des contrats globaux, mais ils ne sont plus signés avec l'État. Ils sont signés entre les collectivités des différents niveaux. Agglo-région, région-département, agglo, dans tous les sens. L'État, il n'est plus là pour animer ce grand partenariat global, transversal, horizontal, ce que vous voulez. La reconfiguration des instruments par lesquels l'État intervient dans les territoires a des conséquences très directes sur les relations de l'État avec les villes. Elle redonne... C'est les nouveaux instruments de l'État redonnent à l'État prise sur les politiques menées par les dernières. Alors normalement, c'est là que vous allez être un certain nombre à faire « non, mais je suis étonné que vous le fassiez avant. Mais, la politique de rénovation urbaine, c'en est la plus parfaite illustration. Et ça me semble d'autant plus éclairant que la politique de rénovation urbaine s'est construite en opposition à la politique de la ville. Elle s'est construite en opposition à la politique qui avait servi de modèle dans le double sens du prototype, de la fonction expérimentale et de l'idéal, l'exemplarité. Donc la politique de la ville qui avait servi de modèle à l'ensemble des politiques territoriales contractuelles des années 80-90. La rénovation urbaine se construit contre la politique de la ville, par opposition à la politique de la ville. Et il me semble qu'elle nous donne à voir un peu ce qui est en train de changer dans les politiques locales et dans les relations entre l'État et les villes. Le passage du renouvellement urbain à la rénovation urbaine, c'est, vous le savez, pas qu'un changement de nom, ni seulement une augmentation des moyens. C'est une opération de design institutionnel qui transforme de fond en comble la politique menée. On a pu, comme dans le cas des GPV des ORU, des projets négociés localement, intégrés quand même d'une certaine façon avec d'autres thématiques, déclinant un projet ou s'intégrant dans un projet territorial global. Là, on a des conventions sectorielles, les conventions de rénovation urbaine, signées par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, les collectivités et les bailleurs sociaux, au terme d'une compétition entre les villes de France, organisée par des appels à projets qui court-circuitent les services déconcentrés. la mutualisation au sein du guichet unique de l'ensemble des ressources financières du secteur devait alléger les contraintes administratives qui freinaient l'avancée des GPV et des ORU. Vous savez ce qu'il en est. Hein. L'ORU n'avait d'autre vocation que d'aider les maires à mettre en œuvre d'ambitieux projets qui s'appuyaient sur des montages financiers complexes. Hein. C'est le projet des maires. L'ORU n'est là que pour aider le projet des maires. Ça, vous savez, l'ORU n'a rien à dire sur le contenu des projets. C'est le projet des maires. On est là pour simplifier l'action des maires. Bon, l'objectif de simplification des procédures n'a été que partiellement atteint. En revanche, la création de l'ANRU a profondément transformé les relations entre pouvoir central et pouvoir locaux. D'une certaine façon, la fragmentation financière antérieure plaçait les villes dans une position relativement favorable vis-à-vis des différents financeurs potentiels de leurs projets de renouvellement urbain. Quand vous deviez faire une action quelconque dans le cadre d'une ORU, d'un GPV, c'était compliqué. Ça prenait du temps parce qu'il fallait aller mobiliser 7 financeurs. Alors ouais, bah, il fallait aller faire le tour, aller voir la CDC, aller voir la DDE, aller voir la DRE, aller voir le 1%, aller voir, etc., etc. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si un financeur disait non, moi je finance pas, bah c'était pas un problème, vous alliez en voir d'autres. Et puis quand vous en aviez un qui avait commencé à financer, après c'était encore plus facile d'avoir les autres. Au bout d'un moment, bah, vous arriviez tous, les maires arrivaient toujours à faire financer leur projet. C'était compliqué, ça prenait du temps, c'est indéniable, c'était pas d'une grande efficience. La création de l'ANRU change la donne. La création du guichet unique change la donne. Aujourd'hui, une ville dont le projet ne serait pas retenu par l'ANRU ne peut plus se tourner vers des financeurs alternatifs. Les maires et les bailleurs sociaux sont placés devant une alternative qui est très simple. Ou bien ils conçoivent un projet fidèle aux exigences et à la doctrine urbanistique et sociale de l'ANRU, ou bien ils renoncent pour de longues années à toute possibilité d'intervention dans leur quartier. De ce point de vue-là, quand je dis la doctrine urbanistique et sociale de l'ANRU, l'ANRU a une doctrine urbanistique et sociale extrêmement précise, extrêmement rigide, au moins aussi rigide que celle qui a présidé à la construction des grands ensembles. C'est la même d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant. Non mais c'est la même. C'est quoi? C'est un retournement, quoi. C'est un miroir de la doctrine urbanistique des grands ensembles, urbanistique et sociale. Hein. Bon, je n'ai pas le temps de me remettre. On pourra, si ça nous intéresse, revenir là-dessus plus longuement. Donc voilà, c'est simple, c'est ou bien on fait ce que demande l'ANRU, ou bien bah, on fait rien et on fait rien pour très longtemps. Et ça, politiquement, c'est quand même très très difficile. Peu de maires ont pris ce risque, comme le prouve la prolifération de projets de rénovation urbaine indifférenciés dans toutes les villes de France. Le recours à la technique de l'appel à projet fait pencher plus encore la balance des pouvoirs du côté du central. Parce que finalement, dans le cadre contractuel auparavant, vous aviez des enveloppes limitées, mais qui étaient prédéfinies. D'une certaine façon, vous caliez vos projets, vos programmes sur ce que les crédits que vous saviez que vous auriez à consommer. Les règles du jeu changent avec les appels à projets, puisque le choix des projets soutenus et le niveau du soutien national ne sont plus définis ex ante. Ils sont définis en continu, au travers de la mise en concurrence. Et les règles changent en permanence en fonction des résultats de la concurrence. La rupture, juste pour faire image, c'est comme si à un moment donné on disait à des élèves ben, quoi, la règle c'est plus le conseil de classe, c'est le concours d'entrée aux grandes écoles. Avant tout le monde passait, personne gagnait beaucoup, maintenant il y en a qui gagnent beaucoup, d'autres qui sont à l'écart. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accès aux ressources centrales ne dépend plus de la pertinence du projet en regard des enjeux locaux, ça ne dépend plus du respect de critères préétablis, explicites. Ça dépend de l'appréciation du projet par une agence nationale, appréciation qui s'opère en fonction de critères assez opaques, de critères qui évoluent au gré des ressources disponibles, et qui, appréciation qui ne s'opère relativement à l'ensemble des projets proposés par les territoires français. Finalement, on est dans un mode de sélection dans lequel les acteurs de chaque territoire sont placés dans une situation d'incertitude qui les conduit à infléchir, substantiellement ou formellement, hein, leur projet de façon à répondre au mieux, et surtout à répondre au plus vite aux exigences du guichet unique, voire à élaborer des projets ad hoc pour saisir l'opportunité financière. Parce que depuis le départ, tout le monde sait que les premiers arrivés seront les mieux servis. Ça a été dit initialement, après on a dit non, c'est pas le cas, sauf que de fait, vous l'avez bien vu, progressivement, plus on arrive tard, plus on passe tard le cap de l'ANRU, bah, plus les règles financières sont strictes, plus les exigences de cofinancement sont importantes, et plus les exigences sur le fond, sur le contenu même des projets, devient importante. Donc il y a eu une course de vitesse. Voilà. Donc tout le monde a voulu faire passer au plus vite le cap, et passer au plus vite le cap, ça, bah, tout le monde a essayé de faire ce qui était attendu par l'ANRU, en sachant que l'ANRU, elle dit jamais non. L'ANRU dit, quand on passe le cap, l'ANRU dit, non, RTP, on dit réviser votre projet. Voilà, tout le monde a bien compris. Réviser votre projet, ça veut dire on reprend 6 mois. Bah, 6 mois, tous les autres y passent. Et puis, il va falloir, ça va être plus compliqué. Donc, tout le monde a intégré par anticipation ce qui était attendu de l'ANRU. Je crois que cette évolution, elle dépasse largement la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, de ce point de vue-là, ne fait que concrétiser et rendre visible un changement beaucoup plus radical qu'un changement dans la logique même de la réforme de l'État. Au cours des années 80, des années 90, il y avait déjà de la réforme de l'État, mais la réforme de l'État, elle était dans une logique plutôt remontante. La logique remontante, la logique de la réforme de l'État des années 80, c'était une logique d'expérimentation locale. Il fallait laisser plus de liberté aux responsables locaux, responsables des services déconcentrés, pour adapter, pour intégrer les politiques nationales en lien avec les villes. À cette époque, d'ailleurs, vous avez remarqué que l'État local s'est beaucoup démené pour mettre fin à la fragmentation du pouvoir local. Les services locaux de l'État qui devaient expérimenter, mettre en cohérence les politiques publiques, bah, ils sont fortement mobilisés pour faire émerger des structures d'agglomération, avoir des partenaires dans les territoires qui soient à même, à la bonne échelle, pour intégrer toutes ces politiques publiques. La logique de la réforme de l'État, depuis le début des années 2000, elle est d'une toute autre nature. Désormais, d'ailleurs, elle n'est plus portée par les mêmes acteurs, hein, elle est portée par Bercy, et exclusivement par Bercy. Et la logique de la réforme de l'État aujourd'hui, c'est celle du New Public Management. C'est l'importation en France des recettes développées un peu partout, Nouvelle-Zélande, Canada, Grande-Bretagne, hein, avec des choses très très simples. Séparation nette entre les fonctions stratégiques, conception, pilotage, évaluation, et fonctions opérationnelles, exécution, par exemple. Voilà, c'est le schéma de principe d'Yves Axet et d'Yves Henry. Hein. Fragmentation des grandes bureaucraties verticales en agences autonomes, renforcement de la responsabilité et de l'autonomie des opérateurs en contrepartie de leur engagement à atteindre des objectifs de résultats. On voit bien que tous, vraiment les principes même du New Public Management, c'est ceux qui sont aujourd'hui à l'œuvre à travers la LOLF et à travers la transformation de l'État. Ces réformes, c'est bien, elles sont entièrement tournées vers le renforcement de la performance. Le mot d'ordre même de ces réformes, c'est l'accroissement de la performance en matière de gestion publique. Mais ce qui est en train de se passer en France, comme ce qu'on a vu ailleurs dans les autres pays du monde, c'est que la performance, dans le cadre de ces réformes managériales, elle est appréciée d'une manière très particulière, de manière très limitée, et notamment de manière très fractionnée. On apprécie la performance, en l'occurrence pour rester dans la maquette LOLF, à l'échelle d'un programme. Et donc on regarde des critères définis à l'intérieur de ce programme. Peu importe que ça déstabilise et que ça aille à l'encontre de la performance de tous les autres programmes. Cette logique, la logique de la réforme de l'État telle qu'on est en train de la vivre, elle est très très différente de celle des années 80-90, de celle qui était promue par la politique de la ville, qui mettait en avant plutôt une logique, au contraire, de mise en cohérence globale, qui a la logique d'intégration horizontale, donc la logique de transversalité, une logique d'intégration verticale, la coordination entre les collectivités des différents niveaux, et enfin une logique d'intégration territoriale avec la coopération intercommunale. On se voit que sur chacune de ces trois dimensions, on est dans un moment de remise en cause. La transversalité laisse place, avec la LOLF, à une sectorisation dure, un renforcement des cloisonnements. L'emboîtement des différents niveaux qui était rendu possible par l'emboîtement des contrats, hein, d'une certaine façon, le contrat de ville, le contrat d'agglo, etc. On s'en soucie plus. Au contraire, on est dans cette logique, retour de la logique des blocs de compétences, où chacun chez soi. Surtout pas de recoupement. Surtout. Enfin, dernier point, et c'est le point qui me semble le plus préoccupant, c'est que l'intégration territoriale, la coopération intercommunale qui était à l'œuvre dans les territoires, la dynamique inédite qui s'est opérée à la fin des années 90, il me semble qu'elle est aujourd'hui remise en cause. Alors, elle n'est pas remise en cause partout. Il y a toute une série de territoires dans lesquels les intercommunalités, ça y est, elles sont là, elles sont durablement inscrites, elles ont une dynamique, mais il y a quand même toute une série d'agglomérations où on est face à des agglomérations faibles qui étaient en voie d'émergence, qui se constituaient difficilement. Et moi, je suis saisi de voir comment les réformes récentes les déstabilisent. Tout se passe, moi, je trouve, aujourd'hui, comme si le pouvoir central s'accommodait de la fragmentation du pouvoir local et de sa faiblesse corollaire. Parce que, soyons clairs, la logique que je vous décris, qui est une logique de mise en concurrence par le niveau central des territoires du local, l'efficacité de la mise en concurrence, ça passe par la fragmentation. Si vous avez un pouvoir local faible et fragmenté, les logiques de mise en concurrence deviennent plus efficaces. Et je trouve que de ce point de vue, quoi, en tout cas, plus efficace pour organiser la diffusion des priorités nationales. La rénovation urbaine me semble, de ce point de vue-là, extrêmement illustrative. D'un côté, l'ANRU a sapé le mouvement de structuration des pouvoirs d'agglomération en privilégiant la signature des conventions avec les maires, alors même que ça relève des champs de compétences des communautés d'agglomération. Et d'un autre côté, elle a organisé une course de vitesse entre les villes, pressée de soumettre un projet acceptable. On avait les deux composantes de la concurrence qui se mettaient en place. Et ben, le résultat, c'est quand même... une grande difficulté aujourd'hui pour les agglomérations à se ressaisir de la rénovation urbaine, à mettre en cohérence la rénovation urbaine avec les conventions de délégation en matière de programmation du logement social. Voilà, alors je ne vais pas aller tellement plus loin sur la rupture, parce que j'avais quelques éléments que vous m'avez demandé de travailler sur les pistes pour les professionnels, mais juste conclusion, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est bien une rupture historique. Toute la gestion publique des territoires français, elle s'est appuyée sur une particularité française qui était le fait qu'on avait dans les territoires des services d'État. On avait des directions départementales dans tous les sens qui maillaient les territoires et qui servaient de clé de voûte non seulement au système politique, mais au système politico-administratif français. Je ne vais pas revenir là-dessus. La résidualisation, sinon la disparition des directions départementales, change la donne. Et nous, quelque chose de nouveau qui s'invente. Et encore une fois, je le répète, si l'État se retire du local, il ne se retire pas de la gestion territoriale. L'État n'a pas abandonné. Non, au contraire, il a repris la main. Parce qu'à travers ces nouveaux outils qui sont mis en place à l'échelon central, l'État, finalement, a retrouvé des moyens d'orienter très efficacement l'action des acteurs locaux en leur faisant intégrer, sans avoir à les imposer ni avoir à les négocier, ses propres priorités. L'ANRU n'impose rien. L'ANRU ne négocie rien. Les maires, avec leurs partenaires, développent librement des projets. Comme par hasard, c'est exactement les projets que voulait l'ANRU. Pour le dire, et pour finir, je crois que si on a eu dans les années 80 et les années 90 une sorte d'État animateur, pour reprendre l'expression là encore de D'Angelo Estève, il me semble qu'aujourd'hui, on a plutôt un État entraîneur. Et ce qui reste de l'État local, c'est bien ça, un État entraîneur, un État qui incite les villes à former des équipes combatives, qui sélectionnent celles qui manifestent le plus clairement leur volonté de participer à un jeu dont les règles, comme le but, sont fixées à Paris et sur lequel on n'a rien à dire localement. Alors maintenant, pour finir, quelles conséquences pour vous, pour les professionnels de développement social urbain? Quels enjeux? Alors je ne vais pas rappeler ce que je vous ai dit en propos liminaire, ce que je vous raconte, c'est pas la réalité, c'est pas la description que vous vivez, mais c'est la caractérisation d'une tendance. À l'évidence, il y a certaines villes qui sont suffisamment armées pour savoir se saisir de tout ce qui bouge au niveau national, qui dressent leur sillon. Il y en a d'autres qui sont complètement téléguidées, téléguidables, parce que faibles, n'ayant pas les ressources. À l'évidence, ce que je vous raconte à propos de l'ANRU, c'est pas aussi marqué avec l'accès. L'accès est faible par rapport à l'ANRU. Elle n'a pas le soutien politique de l'ANRU. Elle n'est pas en position de monopole comme est l'ANRU. L'ANRU a tous les crédits du secteur. L'accès se bat pour essayer de grappiller des crédits. Je vous le répète, ce que je vous ai présenté comme modèle, si ça a un intérêt, c'est pour aider, vraiment, je vais vous aider à saisir, au-delà des péripéties locales, des contextes locaux, les évolutions. Ces évolutions, il me semble qu'elles remettent en cause les valeurs et les pratiques autour desquelles s'est structuré votre monde professionnel. Elles fragilisent dans bien des cas, ou elles ont fragilisé dans bien des cas, les professionnels de la politique de la ville, d'autant plus que ces professionnels étaient souvent en position précaire dans leurs propres institutions localement. Alors, ceci étant dit, moi il me semble des choses toutes bêtes, mais les enjeux de la politique de la ville demeurent. Les problèmes des quartiers, ils sont toujours là, ils ne sont pas résolus, et bon, sauf à croire à la pensée magique, la rénovation urbaine ne résoudra pas les problèmes. La rénovation urbaine peut déplacer les problèmes, la rénovation urbaine peut créer des conditions d'une meilleure gestion des problèmes, mais la rénovation urbaine ne résoudra pas les problèmes. Donc les problèmes, il va continuer à falloir les gérer, et ces problèmes, ça demeure, comme on le dit depuis le début des années 80, oui, des problèmes qui sont irréductibles à une lecture sectorielle, ils sont globaux, transversaux, etc. Et donc il va bien falloir se débrouiller pour articuler, mettre en cohérence des politiques publiques qui sont de plus en plus cloisonnées, de plus en plus dans lesquelles les enjeux fondateurs de votre profession, ils demeurent. Donc paradoxalement, on est, je pense, vous êtes dans un moment assez paradoxal où d'un côté, les évolutions de la politique de la ville vous déstabilisent, vous remettent en cause, et en même temps, ça constitue une opportunité. Ça peut constituer une opportunité. Alors là, je vais reprendre ce que disait Sapoval ce matin. Moi, je pense que vous n'êtes pas les plus mal placés pour apporter des réponses aux problèmes émergents que doit traiter l'action publique dans les territoires. Alors, des problèmes émergents qui sont pour une bonne part suscités par la politique de la ville et ses évolutions, et d'autres problèmes émergents. Alors, la question, c'est comment saisir l'opportunité ? Bon, j'ai pas de réponse, évidemment, sinon je... j'ai des pistes. Première chose, c'est que je pense qu'il y a quand même un enjeu extrêmement fort de repositionnement local. Quand je vous ai dit, vous êtes, les professionnels de la politique de la ville se sont quand même structurés et construits dans une relation face à face avec les services de l'État, dans une relation privilégiée avec les services déconcentrés de l'État. Si les services déconcentrés de l'État deviennent des partenaires faibles, et si vous continuez à construire prioritairement votre relation dans le vis-à-vis avec ces partenaires, vous affaiblissez vous-même. D'ailleurs, attendez, je devrais dire autre chose. Votre positionnement, il s'était construit plutôt sur une double relation. Une relation avec les services déconcentrés de l'État, votre positionnement dans vos institutions, communales, intercommunales, d'une part vis-à-vis des services de l'État, et d'autre part votre relation avec les acteurs des quartiers. Autrement dit, votre positionnement est né à votre capacité à mobiliser les ressources locales. Il me semble que les évolutions de la politique de la ville font que, aujourd'hui, l'enjeu pour vous, c'est sans doute moins de faire la preuve de votre capacité à mobiliser les ressources locales que de faire la preuve de votre capacité à capter des ressources extra-locales. Si vous voulez construire votre légitimité dans vos municipalités, dans vos agglos, il faut que vous montriez que vous êtes en mesure d'apporter, de capter des ressources nationales, des ressources européennes, des ressources régionales. Et ouais, je vais faire les chasseurs de primes. Sachant que ces évolutions, le jeu d'appel à projet, ça s'accompagne de nouvelles exigences de la part de vos bailleurs de fonds, d'exigences gestionnaires beaucoup plus fortes. Il y a une délégation plus forte et en même temps, il y a des exigences gestionnaires beaucoup plus fortes en matière de suivi, de reporting. Donc, ça demande de faire des progrès en matière d'ingénierie financière. Je vous dis des choses que vous vivez déjà au quotidien, vous le savez. Et je pense, au risque de, moi, je pense que c'est extrêmement positif. Que ça peut être extrêmement positif. Si ça permet effectivement une forme de professionnalisation de la gestion de projet. Bon, le problème, c'est que ça peut être, et ça l'est, extrêmement négatif, parce que ça peut être chronophage, ça peut vous rabattre sur une simple fonction de pro de Excel, ça peut bureaucratiser, et surtout, ça peut vous faire perdre ce qui demeure quand même un de vos éléments clés de votre positionnement, qui est votre accroche avec le terrain, avec les acteurs du quartier. Donc l'évolution que je vous décris, elle est déjà en cours avec la multiplication des appels à projets, maisons de l'emploi, réussite éducative, je ne sais quoi, les programmes européens. Il me semble que sous les contraintes budgétaires font que ça ne peut que se renforcer, parce que l'appel à projets, c'est le seul instrument dont dispose l'État ou l'Union européenne, ou même des régions, pour développer ces programmes tout en sans se lier les mains à l'avance, et pas arroser tous les territoires. C'est-à-dire pour l'État, développer un programme qui touche les villes, mais dire on va faire bénéficier que N villes, c'est compliqué. L'appel à projet, ça permet de le faire, parce que dès lors qu'on lance un appel à projet qui n'est pas limitatif, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, vous l'avez vu avec les maisons de l'emploi. Bref, donc, l'appel à projet, c'est un mode de gestion de la disette budgétaire. La disette budgétaire, on l'a pour un bon moment, et donc les appels à projet vont se multiplier. Je pense que vous n'avez pas tellement d'autres choix que de vous positionner là-dessus. L'un des risques, outre la bureaucratisation, la perte d'accroche terrain, c'est derrière ça une autre perte qui est celle du sens du projet territorial. C'est vous allez les appels à projets, c'est sectorisé, il faut se caler sur les exigences nationales et la tendance, c'est peut-être quoi, c'est assez souvent d'anticiper, d'aller toujours au plus près des attentes du bailleur du fonds, du gestionnaire de l'appel à projet, en oubliant ce qui sont ce qu'est le projet territorial. On a tendanciellement comme ça, je pense que les CUX de ce point de vue-là sont dans bien des cas assez symptomatiques, la juxtaposition d'une série de projets, d'une série de programmes qui ont été négociés en amont et à laquelle, en aval, on s'escrime à essayer de mettre un petit peu de cohérence dans cette affaire. Alors la question, comment est-ce qu'on peut instrumentaliser l'instrument appel à projet ? Alors là, je suis désolé, mais je me suis dit, comment est-ce qu'on peut instrumentaliser cet instrument ? Je dois dire, je n'ai pas de réponse, ou bien plutôt, la réponse que j'ai, elle est d'une platitude totale. C'est simple, c'est le projet. Bah oui, bah non, mais c'est con, c'est simple et c'est bien trop simple, et en même temps, il n'y en a pas d'autre. C'est qu'il faut avoir un projet territorial qui est un peu consistant, qui est assez largement porté, et ça permet d'instrumentaliser les appels à projets. Ça permet de les ressaisir au service des instruments. Bon, le problème, c'est une fois que j'ai dit ça, ça laisse la question entière, c'est bah, comment on fait il y a des territoires qui, dans la durée, ont structuré leurs projets, ils font évoluer, etc. Dans d'autres territoires, comment on fait? Bon, c'est pas aujourd'hui. Dernière question, et qui me semble peut-être la plus problématique, c'est est-ce que vous êtes aujourd'hui les plus à même, vous, professionnels de la politique de la ville, à porter les projets de territoire? Est-ce que vous avez les ressources? Est-ce que vous avez la légitimité? Est-ce que vous avez l'expertise pour ce faire? Bon, là encore, vous le savez, c'est variable suivant les sites. Moi, il me semble qu'il y a toute une série de. Il y a une nécessité évidente pour de nombreux professionnels de la politique de la ville de sortir, bah, d'ouvrir les yeux, de pas se voiler la face, arrêter de tenir en permanence ce discours du projet territorial, alors que la fonction réelle, c'est d'être cantonné dans la gestion d'une micro-enveloppe de crédit sans prise sur rien. Alors, comment ouvrir les yeux? Éventuellement, pour ceux qui ont les moyens de le faire, d'investir de nouvelles entrées qui leur permettent de structurer, qui leur permettent de sortir de cette fonction extrêmement limitée de gestionnaire. Arrêtons la prétention, disant le gestionnaire des mesures va devenir le leader du projet de territoire. C'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, il me semble qu'il y a des entrées qui peuvent être investies, sur lesquelles les acteurs de la politique de la ville sont légitimes et qui leur permettent un peu de monter en niveau et d'aller vers quelque chose qui ressemble à une influence sur ce qui sera un projet de territoire. Je pense que, y a, quoi, pour dire les choses encore plus clairement, il faut, dans certains cas, sortir du simple approche des programmes de la politique de la ville pour investir de nouvelles entrées plus porteuses. Et moi, j'en vois deux. Alors, c'est pas un scoop, hein, c'est évidemment la lutte contre la discrimination et, pour reprendre ce que disait Sapoval, le développement urbain durable. Pourquoi ces deux-là? Parce que, d'abord, soyons très, très clairs, c'est des thématiques porteuses. Voilà. Je ne vous parlerai pas de l'interculturalité, vous aurez cru comprendre que c'était peut-être un peu moins porteur. Donc, c'est des thématiques porteuses. C'est des thématiques qui ont une caractéristique très particulière. Et là, je ne fais que quoi, je ne vais pas développer parce que c'est exactement ce qu'a dit Sapoval. C'est des thématiques pour lesquelles vous n'êtes pas nécessairement les plus mal placés. Alors, vous n'êtes pas les plus mal placés, alors ça, il ne l'a pas dit, mais déjà parce que vous avez déjà fait l'expérience des politiques Borloo, vous êtes peut-être un peu moins naïf que d'autres quant à ce que ça veut dire des politiques conçues par Jean-Louis Borloo. Je pense qu'il est au Grenelle, il est à l'environnement maintenant, et vous allez voir les trucs débouler, vous allez peut-être pouvoir tilter un peu plus vite, comprendre les règles du jeu un peu plus vite que les autres. Ça, il ne l'a pas dit, mais ça. Non. Deuxième raison, et plus substantiellement, c'est parce que je pense, et là je pense que le développement urbain durable, les valeurs du développement urbain durable, du développement durable, quoi, si on le prend au sérieux, c'est très exactement les principes de la politique de la ville. La politique de la ville, les principes historiques, ceux auxquels la politique de la ville a renoncé, d'une certaine façon, hein, le partenariat, la transversalité, la participation. Je pense que vous avez aujourd'hui, il y a des enjeux de ce repositionnement là-dessus, mais alors, je terminerai là-dessus, faut pas se voiler la face. Vous n'êtes pas nécessairement les mieux placés. Et la concurrence va être rude localement pour investir ces sujets-là. Ceci étant dit, moi, je ne vois pas d'autre alternative que de tenter d'investir ça, ou bien bah, vous cantonner dans une fonction de gestionnaire de petits programmes sans sens.